fidèles du mardi soir, vous êtes à l'heure. C'est bien si les 90s m'étaient comptés sur CFM Rodez et la Kicking Radio. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager cette heure dédiée aux années 90. Après notre petite escapade hors série d'il y a 15 jours, retour à un épisode traditionnel aujourd'hui avec un maximum de rock 90s, l'éphéméride et nos deux dossiers. Alors je sais pas si vous étiez un fan de sport US ces années-là. En tout cas, si c'est le cas, vous devez sûrement vous rappeler de la saison 90-91 des Chicago Bulls. C'est celle qui avait vu le premier sacre d'un certain Michael Air Jordan. Ce sera l'objet de notre premier dossier. Quant au second, on s'intéressera à un des modes de communication typiques des 90s, qui a depuis d'ailleurs complètement disparu, les pagers. Ce qu'on appelait à l'époque les tam-tam, tatou et autres Kobe. Mais pour le moment, place à la musique, voici Metallica, qui aurait d'ailleurs presque pu changer de nom à cette époque-là. Alternatica, ça aurait pu tellement le faire. Ils étaient loin, loin, loin du trash et du heavy metal sur Hero of the Day, un souvenir du temps décrié Load de 96 et que perso, j'adore.
That one. C'est plutôt malin.
Moi, ça m'excite. Je suis prête, allons-y maintenant, tout de suite. Allez.
Allez, on y va.
Make up your mind. Decide to walk with me around the lake tonight. Around the lake tonight, by my side. We'll be right back.
Encore un groupe dont on peut se demander si, sans le succès de Nirvana, il aurait signé sur Major, c'était les Toadies de Fort Worth, Texas, avec Possum Kingdom, extrait de Rubberneck, leur seul et unique album à avoir vu le jour durant les années 90, puisque comme pas mal de groupes signés à cette époque-là, Interscope a refusé en bloc de sortir le disque suivant, qui n'a finalement vu le jour qu'en 2001, et chez un indé, comme quoi, à l'époque, signé sur Major, ça pouvait aussi sérieusement porter la guigne.
Attends, normal, je fais jamais de prière, mais si t'es là-haut, je t'en prie, sauve-moi, Superman.
Of community, but how the hell can I complain? On the other side of town, people are sleeping on the ground. Look not far and you will find a tragedy, the daily grind. Down and the price goes up. There's not enough jobs to fill a cup, and the streets are filled with shame. Here I am in a traffic jam, and ugly faces stare me down. They call this the right side of town, but still I can't complain.
Malgré les sollicitations, ils n'ont jamais signé sur Major. C'était les désormais feu No Use For A Name du regretté Joey Cape avec The Daily Grind, un extrait du EP du même nom qui était sorti en 93 chez Fat Records. On s'écoute encore un titre et on passe à l'éphéméride. On va d'ailleurs s'envoyer tout de suite un titre de notre disque culte de la semaine. J'ai choisi aujourd'hui le premier album de Hills, Beautiful Freak, dont voici d'ailleurs le premier single, Novocaine For The Soul.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back.
Allez, c'est l'heure de l'éphémérie de 90s, le moment de replonger dans l'actu de la première quinzaine de mars durant les 90s. C'est parti. Et on commence avec le 2 mars 91. En fin d'après-midi, Lucien Ginzburg, alias Serge Gainsbourg, est victime d'une crise cardiaque à son domicile, rue de Verneuil à Paris. L'homme à tête de chou tire sa révérence. Lui qui considérait la musique comme un art mineur va laisser sur le carreau des milliers de fans. La grande frustration de sa vie, n'avoir jamais été considéré comme un grand peintre. Le 3 mars 91, Rodney King est passé à tabac par les flics du LAPD, une scène qui a été filmée par un vidéaste amateur qui d'ailleurs a tourné en boucle à l'époque sur les chaînes de télévision. Et suite à ce tabassage et cette vidéo, un procès a eu lieu, un procès qui a été largement médiatisé aux États-Unis, avec à la clé l'acquittement des policiers, ce qui déclencha des émeutes énormes en 92 à Los Angeles. On continue avec le 8 mars 93, Beck sort son méga hit Loser tiré de Mellow Gold, son premier album sur Major, Loser qui a longtemps complètement éclipsé le travail de Beck, et c'est bien dommage parce que franchement, il y a du bon. Le 9 mars 1994, c'est la mort de Buck, Charles Bukowski, à 74 ans d'une leucémie. Sur sa tombe, il avait demandé que soit gravé l'épitaphe « Don't try », autrement dit « N'essaie pas, fais-le ». Et on termine avec le 13 mars 1995, Radiohead sort The Band, un disque certifié 3 fois platine en Grande-Bretagne et au Canada, et platine aux États-Unis et en Europe. Et c'est un disque qui est encore considéré comme un des albums majeurs des années 90. Ça me fait penser qu'il faudra certainement qu'au jour on se penche sur son cas, car franchement, il y a matière. On va d'ailleurs s'écouter tout de suite Radiohead. Voici High and Dry, tiré justement de The Band de 95.
Écoute, je vais jouer franco avec toi. Si tu veux la vérité, je m'en cogne de ce que tu sais ou non. Mais je vais te torturer rien qu'un peu. Pour la rigolade. Pas pour te faire parler.
Vous êtes au cœur de Si les 90s m'étaient comptés, on vient de s'écouter deux titres enchaînés. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a commencé avec Radiohead et le superbe titre High and Dry, un de mes titres d'ailleurs préférés de Radiohead. Et juste derrière, Jane's Addiction et Stop. Jane's Addiction qui est actuellement en hiatus. Le dernier album, c'est un live qui est sorti au mois de juillet dernier, un live enregistré à New York qui permettra certainement de meubler l'attente parce que mine de rien, Jane's Addiction, c'est un groupe qui nous manque. Voilà, c'est l'heure de maintenant de sortir notre premier dossier du jour. Aujourd'hui, on va revisiter la saison 90-91 des Chicago Bulls. Yes. Avant de parler de cette fameuse saison 90-91 des Bulls, il faut se remémorer un peu le contexte de l'époque. Pas d'internet, pas de satellite. En France, le seul moyen de mater le basket US, c'était sur Canal. Autrement dit, un truc réservé à une poignée de privilégiés. Pour les autres, dont je faisais partie, bah les matchs, on les suivait tout simplement sur des cassettes vidéo, des VHS que nous enregistraient les copains. Alors, au début des 90s, c'était un peu un âge d'or pour ceux qui aimaient le basket, une période magique avec l'avènement de Jordan, la fin de carrière de Magic Johnson, la Dream Team et toute une folie autour de la NBA. Et à l'orée de la saison 90-91, les Bulls étaient encore des outsiders. Ils étaient vraiment morts de faim car il était temps pour eux de décrocher le premier titre de l'histoire de leur franchise. Mais pour eux, pour les Bulls, la saison commence mal avec 3 défaites d'affilée. Jordan prend alors ses responsabilités et l'effet est radical puisque les Bulls métamorphosés vont enchaîner les victoires. Arrive alors la première confrontation avec les champions sortants, les fameux Detroit Pistons, où les Bulls s'inclinent de 21 points, 105-84, une défaite qui les fait bien redescendre sur terre. Les Bulls se frottent ensuite aux Lakers de Magic Johnson, qu'ils battent notamment avec 33 points, 15 rebonds et 9 passes de Jordan. Les Bulls sont alors sur un nuage et enchaînent une série de victoires jusqu'à la réception de leur bête noire, les Pistons, le jour de Noël 90, mais cette fois, tout va changer. Le matin du match, Jordan est devenu papa, pour la première fois, et il fête l'événement en passant 37 points aux Pistons qui s'inclinent. Les Bulls grimpent alors au classement et battent encore les Pistons juste avant le All-Star Game. Après la trêve, ils enfilent 9 succès en 10 matchs. Jordan, Pippen et Grant commencent alors à faire sérieusement trembler la NBA. Chicago termine avec 61 victoires au compteur contre 21 défaites et se qualifie pour les playoffs. En playoff, ils se débarrassent facilement de New York, 3-0, puis de Philadelphie, 4-1, et ils retrouvent en finale de conférence les Detroit Pistons, encore eux, de Dennis Rodman. Les Bulls prennent alors rapidement le commandement dans cette série de matchs, 2-0, et au Game 3, la tension est à son comble, Rodman balance Scottie Pippen dans les tribunes, ce qui n'empêche pas les Bulls de remporter le match, ainsi que le quatrième. Les Bulls sont alors qualifiés pour les finales NBA, les premières de leur histoire, et l'affiche est belle, puisqu'ils sont confrontés aux Lakers, ce qui nous donne un anthologique Air Jordan contre Magic Johnson. Plus expérimentés, les Lakers remportent le Game 1 au Chicago Stadium. Au Game 2, les Bulls sont en difficulté en début de match, mais Scottie Pippen en défense sur Magic Johnson fait le boulot. Et finalement, les Bulls prennent l'avantage et égalisent dans la série à 1-1. Game 3, on part à Los Angeles. Jordan égalise à quelques secondes du terme de la rencontre. Prolongation, les Bulls l'emportent grâce à Jordan qui inscrit 6 des 12 points des Bulls. Chicago remporte ensuite assez facilement le Game 4 et l'affaire semble même entendue pour le Game 5 car Los Angeles est diminué par de nombreux blessés. Mais les Lakers ne lâchent pas aussi facilement. À 6 minutes de la fin, Chicago est même mené de 3 points mais grâce à un énorme Jordan, la situation se débloque et John Paxson à la réception des passes de Is Ernest inscrit 20 points. Les Bulls du même coup remportent le Game 5 et la première finale NBA de leur histoire et le reste appartient à la légende. Jordan en pleurs embrasse le trophée aux côtés de son père et il est même élu MVP, Most Valuable Players. Les Chicago ensuite tout au long des 90s vont s'imposer comme la référence. Ils vont gagner 6 titres en 10 ans et à part les Celtics qui ont glané 9 titres entre 56 et 66, aucune autre franchise NBA n'a fait mieux depuis. Quant à Jordan, il est devenu l'idole de toute une génération, un demi-dieu du ballon orange et moi je vous le dis, je suis pas prêt d'oublier ce fameux numéro 23.
penses de Trudy? Elle a pas de mec, tu peux... Ah, tu vas rester éclaté?
Trudy, c'est celle qui a plein de trous sur la figure?
Non, elle, c'est Jody. C'est ma femme.
Smells so sweetly. I got a girl, she loves her dog. I got a girl, I love her dog too. I got a girl who stares in the mirror. I got a girl who blames it on her period. I got a girl, she is so right. I got a girl, she's my
Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous passer du mot donné, et c'est chose faite puisqu'on vient de s'écouter Let It Slide, tiré de l'excellent Every Good Boy des Service Fudge, sorti en 90 chez Sub Pop, et juste derrière les Texans de Tripping Daisy, un groupe surtout connu pour ce fameux single I Got A Girl, un gros gros tube de 95. On s'écoute tout de suite Elastica avec Stutter et on se retrouve juste après avec un dossier technologie vintage, je vous en dis pas plus. Je vous parlais juste avant Elastica de technologie vintage pour ce deuxième dossier du jour. Je vous l'ai dit en début d'émission, il est consacré aux pagers, ces drôles de petites machines qu'on avait dans nos poches au début des 90s, les fameux Tam Tam Tattoo et autres Kobe. En 95, le téléphone mobile, il était loin de ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait en tout et pour tout en France 1 300 000 abonnés. Ça fait quand même 70 fois moins qu'aujourd'hui. Mais déjà, à l'époque, certaines personnes voulaient être joignables en tout lieu et en toute heure, ce qui a poussé les opérateurs à se lancer sur le marché des pagers, les opérateurs qui y croyaient d'ailleurs moyennement, alors que le pagers cartonnait aux États-Unis. Alors l'objet peut paraître bien basique aujourd'hui, un simple petit boîtier rechargeable doté d'un écran LCD, uniquement capable de recevoir des messages de 80 caractères maxi. Ça fonctionnait assez simplement, il fallait téléphoner à l'opérateur, lui transmettre le message ou alors utiliser le service Minitel, et le message était ensuite envoyé par radio sur le petit pager directement dans la poche du correspondant. Alors la première boîte à se lancer, ça fut Bouygues en septembre 94 avec le petit Kobe, un pager fabriqué par NEC qui recevait les dépêches d'actualité et qui était doté d'une messagerie vocale et qui se louait 66 francs par mois. En mars 1995, c'est la riposte, CGTEL dégaine son Tam Tam, un pager qui est sans abonnement lui, qui coûte quand même 1290 francs, qui était une petite somme rondelette pour l'époque. Le dernier opérateur arrivé sur le marché français, c'est septembre 1995 avec France Télécom, qui lui sort le Tattoo, un pager plus basique, puisqu'il ne recevait que des messages chiffrés limités à 15 caractères. Mais ces messages pouvaient être envoyés directement depuis un téléphone fixe, ce qui était une vraie petite révolution pour l'époque. Alors dès le début, les ados et les jeunes adultes furent ciblés par les publicitaires, avec des appareils qui étaient assimilés à des gadgets fun, avec des couleurs flashy, et des slogans publicitaires du genre « Kobe, si on te cherche, on te trouve » ou « Comment faisait-on avant Tam Tam ?» ou « Tattoo, votre tribu garde le contact avec vous ». C'est une stratégie qui va s'avérer payante, puisque fin 98, on comptait en France plus de 2 millions d'utilisateurs de pagers. Mais c'était déjà la fin d'une époque, parce que le téléphone portable et ses tarifs commençaient à se démocratiser, et les pagers furent donc rapidement passés de mode et relégués au tiroir à souvenirs où se trouve peut-être même encore le vôtre. Alors fouillez bien chez vos parents, je suis sûr qu'il y a encore.
Yeah.
C'est la dernière ligne droite de ce sixième épisode de Si les 90s m'étaient comptés, et c'était Sponge et Wax Ecstatic, tiré de l'album du même nom de 96. 96, c'est aussi l'année de sortie du disque indispensable de la semaine, Beautiful Freak, le premier album de Hills. Débarqué de Los Angeles et première signature de DreamWorks Records, le label co-présidé par Steven Spielberg, Hills avait sur le papier toutes les qualités pour devenir le genre de phénomène dont adorait s'enticher la presse rock anglaise, genre NME ou Melody Makers, dans les années 90. Mais le trio mené par le binoclard Mark Oliver Everett, le chanteur-guitariste surnommé E, était loin d'avoir le pédigré requis pour faire les couvertures des magazines. Pas de gueule d'ange en vue, et côté musique, une pop faite de briques et de broc, un truc inclassable qui évoque tout à la fois Radiohead, Neil Young et REM. Du coup, on peut le dire, si ce groupe s'est imposé, c'est parce qu'il y a derrière la pochette mystérieuse de Beautiful Freak, représentant une petite fille aux yeux surdimensionnés, un premier disque attachant et fragile qui a touché pas mal de gens à l'époque. Avec ses sonorités mêlant l'organique et l'électronique, Beautiful Freak en a surpris plus d'un. Rien à voir avec la super production qu'on aurait pu attendre d'un label plein aux as comme DreamWorks, mais au contraire, un disque qui sent la bricole souvent génial. Même s'il ne prétend pas être un grand technicien, Mark Oliver Everett est un pop writer expérimenté. Il n'y a qu'à voir le potentiel radiophonique d'un single comme Novocaine for the Soul qu'on s'est écouté en début d'émission pour s'en convaincre. Mais c'est surtout à la rencontre d'un artiste torturé qu'on va sur Beautiful Freak, un type au sens aigu de l'arrangement comme disaient les Zen Rock à l'époque, mais qui n'a pas son pareil pour signer des ballades tendres et éthérées seul au piano ou à la guitare. Ballades qui littéralement vous arrachent le cœur. Et puis aussi, Mark Oliver Everett, c'est un type qui sait jouer l'électricité et signer avec notamment Racks to Racks, Mental ou Not Ready Yet, des titres puissants mais toujours empreints de cette mélancolie indéfectible, mélancolie qui semble ne l'avoir jamais quitté depuis son enfance. Moi je vous le dis, en 96, la génération X avait la tête dans le sac et ce disque de Hills, ben, il ne pouvait pas mieux tomber pour nourrir son blues. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse donc avec Hills et Racks to Racks, un peu d'électricité pour terminer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Staring back, how did I get this way? Take a big look at a living line. Rags to rags and rust to rust. How do you stand when you've been crushed? So rags to riches was a bust.
fucking thing.